cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 5 février 1992.
Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut le faire que par l'adoration. On n'est pas restauration, ils redeviendront dans le fond de leur cœur dévot. Mais donc, le rapport n'est pas le même entre dévotion et adoration, entre appréhension. Il y a quelque chose de commun, mais en même temps, c'est très différent.
Une fausse dévotion. Et c'est vrai, on est lié à... On est ligoté. prouve qu'il y a une union effective dans la contemplation.
Qu'il y a
une union effective
dans la contemplation. Plus que dans l'adoration. Ça vous semble drôle. Mais j'ai prévenu. J'ai prévenu pour beaucoup d'entre nous. Dire ça, ça semble curieux parce qu'on a l'impression que psychologiquement, l'adoration vous touche plus que la contemplation. Mais réellement, la contemplation est plus radicale en vous que l'adoration.
Par rapport à l'adoration, il y a plus une union effective. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que ce n'est pas quand même pleinement une union effective ?
C'est une union affective, l'adoration.
Oui, mais la contemplation, elle n'est pas pleinement effective.
Pourquoi ?
Ben justement,
l'intelligence nous met dans l'unité avec Dieu. Vous adhérez pleinement au bon plaisir de Dieu. C'est pas ça une unité effective. Tandis que l'adoration liée à elle-même est affective et il y a facilement ces corruptions d'adoration par le point de vue de la dévotion. Vous ne ressentez plus rien. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dira « Oui, j'ai rencontré quelque chose de tout à fait particulier. Fais ça, tu vas voir. » Et puis les gens imaginativement cessent de prendre. Parce qu'il n'y a pas d'union effective. S'ils avaient une union effective avec Dieu, au point de vue contemplatif, ils ne pourraient pas. L'intelligence est garde-fou de l'affectivité. C'est ce que nous allons voir du reste. L'affectivité par elle-même est très très liée à l'imaginaire. Et par l'imaginaire aux passions. Nous n'avons pas regardé ce point de vue-là, mais on pourrait le regarder. C'est évident de voir la corruption de la dévotion et d'adoration. On s'en verra peut-être au terme. Alors je voudrais maintenant voir avec vous comment l'adoration va modifier l'adoration religieuse va modifier mon attitude morale purement humaine. Or, la première chose à voir, c'est de comprendre que l'amour d'amitié, qui est à la racine de toute éthique humaine, se fonde sur l'amour d'amitié, puisque c'est la fin propre de l'homme. J'espère que ça, vous le voyez bien. Si encore des doutes là-dessus, il faut essayer de les exprimer. Parce que c'est quand même très, très important. Alors, il faut comprendre comment cet amour d'amitié est modifié par l'adoration. Je ne peux pas, si j'ai découvert l'adoration, et si mon ami a découvert l'adoration, je ne peux pas l'aimer de la même manière qu'avant avoir adoré. Alors ça, c'est de l'influence de la vertu de religion sur toute cette morale humaine. Ça, c'est très important, c'est ici. Parce que apparemment, on dira, et on a la raison de le dire, apparemment, oh, mon ami, il ne croit en rien, il est complètement irreligieux. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il suffit qu'on s'aime beaucoup. Ça se dit. Mais ça fait bien de dire ça. C'est une erreur. C'est quand même très différent d'aimer une personne humaine qui n'a aucun sens de Dieu que d'aimer une personne humaine qui a un vrai sens de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir quelle modification ce sens de Dieu produit dans l'ami, chez les amis. Du fait je découvre l'existence de Dieu et que je l'adore. Je reconnais ma totale dépendance à l'égard de Dieu. C'est le propre de l'adoration. Je suis entièrement remis entre les mains de Dieu. Mon âme a été créée par Dieu. Et donc je suis radicalement dépendant de Dieu. Et c'est ce qui est vécu dans l'adoration. Dans l'acte d'adoration, je reconnais cette totale dépendance à l'égard de Dieu. Et j'aime cette dépendance. Parce que je sais que je ne peux pas être mieux que dans les mains de Dieu, parce que Dieu m'aime plus que je n'aime moi-même. Psychologiquement, pas commode à encaisser. Très difficile à encaisser, ça. De dire en toute vérité, au plan pratique, je sais que Dieu m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Parce qu'au fond, on s'aime soi-même, souvent d'une façon très extérieure. On aime l'épanouissement d'une quantité de choses secondaires en nous. Garder sa beauté, garder sa fraîcheur. Il faut la confier, psychologue. C'est très ennuyeux. Ça, on ne peut rien contre le temps. Et quelquefois, plus on lutte, plus on fait des catastrophes. Alors, il faut bien saisir ça. Il faut bien saisir que l'amour de Dieu pour nous, l'amour de notre Créateur, de notre Père, est un amour qui se fait de l'intérieur. Dieu aime en nous ce qu'il y a de meilleur. Alors que nous n'aimons pas toujours en nous ce qu'il y a de meilleur. Comme nous n'aimons pas toujours dans l'ami ce qu'il y a de meilleur. On fait des petites complicités. On n'insistera pas trop là-dessus. On ne sera pas dans une lucidité, une limpidité absolue. Dans cet amour d'amitié, au point de vue purement humain, on est un peu complices. On est joyeux de se rencontrer. L'essentiel, c'est d'être joyeux de se rencontrer. C'est ça, l'essentiel. Et de s'épanouir plus qu'on peut. Au moins, à ce moment-là, on est vrai. Ah oui, on est vrai dans une certaine manière de l'être. Un épanouissement extérieur, périphérique. Donc, c'est la première chose qu'il faut constater, ça. Il faudra ensuite comprendre que, grâce à l'amour, grâce à l'adoration, je vais donc avoir sur moi-même et sur l'ami un regard beaucoup plus profond. Puisque je me regarde comme étant créé par Dieu, aimé de Dieu. Et j'essaie d'aimer en moi ce que Dieu aime le plus. Et j'essaie d'aimer dans mon ami ce que Dieu aime le plus. Voilà ce que réalise l'adoration. Alors ça peut transformer un amour d'amitié, le purifier. Premièrement, le purifier. Mettre les choses à leur place, selon un ordre véritable, qui est l'ordre de la sagesse de Dieu, et non pas du tout selon mon caprice. C'est rude, c'est pas comme moi du tout, ça se fait pas d'un seul coup. Ça met du temps que la vertu de religion, que l'adoration arrive à purifier mon regard sur moi et sur mon prochain. C'est pas comme moi du tout, sur l'ami. Donc, première constatation, il faut arriver à cela si on est loyal. Si vraiment on laisse à l'adoration et à la vertu de religion sa capacité. La vertu de religion est une vertu fondamentale et qui règne sur toutes mes activités humaines. Parce que toutes mes activités humaines sont les activités d'une créature, d'une personne créée. Donc il y a une répercussion sur toutes mes, sur tout mon état propre. Ça devient même bête. Parce que quand même, mais ça réapparaît. Donc, l'humilité consiste à accepter de laisser passer les autres devant. Ce qui n'est pas commode du tout. Et de ne pas réclamer tout le temps d'être le point de mire. Soit le point de mire parce qu'on est un très grand sportif, alors qu'on soit le point de mire pour cette section du sport dans laquelle on est très bien, mais pas pour les autres. Bon. Sur un point donné, qu'on soit un très grand savant dans un domaine, très bien. Oui, l'humilité ne consiste pas à voiler ses qualités. Ça, c'est pas vrai. C'est une fausse humilité, ça. De voiler ses qualités. Parce que quand même, c'est agréable pour les gens de voir des gens qui ont des qualités. En conversation, vous voyez, il y a une fausse humilité, quelquefois. Alors, chacun voile ses qualités, alors la récréation devient... complètement sans aucun intérêt. Parce que chacun se voile. Mais intérieurement, chacun dit « Ah, c'est embêtant, c'est embêtant. On n'a pas parlé de moi. » L'humilité consiste à être vrai. C'est pour ça que l'humilité s'acquiert par l'adoration. ce poids héréditaire à une espèce d'exaltation de notre moi. On aime d'être exalté. On aime de s'exalter. Et d'une certaine manière, on vit un peu dans ce contexte quand on ne fait pas grande attention. Dans un contexte purement humain. Il faut soigner son image. Les gens. C'est effrayant. Soigner son image, c'est faire que justement sa réputation soit bien soignée. Et donc, on est là pour la garder. Si on n'était pas là pour la garder, très vite, elle disparaîtrait. C'est pour ça que l'image vivante des morts disparaît si vite. Le jour de leur enterrement, ça va. Mais sitôt après, c'est fini. On a fait un panégyrique, c'est fini. Le panégyrique meurt avec celui qui est mort. Par l'adoration, je reconnais que je ne suis rien en face de Dieu. Puisque tout ce qu'il y a de bon en moi vient de Dieu. Vient du Créateur. Donc j'acquiers progressivement une vérité face à Dieu. Et j'accepte, grâce à l'adoration, que dans chaque créature, il y a quelque chose d'unique que je ne possède pas. Et donc chacun de ceux qui vivent avec moi, qui vivent près de moi, manifester quelque chose que moi je n'ai pas. Ils peuvent donc avoir une part très très spéciale, particulière et unique. Et ça, c'est le propre de l'adoration qui me fait comprendre ça. Donc, en sorte que l'adoration me permet de m'effacer devant tout ce qui sont proches de moi. M'effacer dans le sens de les laisser passer devant. Essayez de réfléchir à cela. C'est pas si commode que ça. Hein. De laisser passer devant quelqu'un qui est plus jeune que nous. Quelqu'un qui, sous d'autres aspects, sont inférieurs à nous. Et sous un aspect particulier, il a quelque chose qui est spécial. Et on va mettre ça en lumière. Alors que l'orgueil a tout de suite dépisté qu'il y avait chez celui qui est tout proche de moi quelque chose sans doute de très bien. Je ne veux absolument pas le mettre en lumière. Parce que si je le mets en lumière, je disparaîtrai. Je serai dans l'ombre. Bon, on connaît ça très bien psychologiquement. Hein. C'est pas la peine d'insister tellement, parce que ça, c'est de la bonne psychologie. Où on voit très bien le combat entre accepter que quelqu'un qui est tout proche de moi passe devant moi, alors que je connais très bien ses défauts. Si c'est un pan, j'accepte parce qu'il fait bien la roue. Mais c'est un dindon. C'est beaucoup plus difficile d'accepter. dans certains domaines, sont très inférieurs. On le fait passer devant. Et on est heureux. On est dans la joie. Vous voyez, cette humilité supprime toute espèce de rivalité. Supprime toute attitude qui, où on serait susceptible. Parce que la susceptibilité est une conséquence de l'orgueil la plupart du temps. On est terriblement susceptible que notre petit personnage joue son rôle. Alors si les normes habituelles des personnes plus respectables que nous passent devant, on dit très bien, mais le moment précis où on devrait venir juste en quatrième ou cinquième position et qu'on passe, on dit tiens, puis on attend anxieusement. Psychologiquement parlant, vous voyez, l'orgueil est très éveillé au point de vue psychologique. Notre psychologie est une psychologie d'orgueilleux. Je crois. C'est très très rare que vous avez la psychologie de l'humilité. Ça se voit, mais c'est très rare. C'est agréable. Si vous êtes à côté, c'est agréable parce qu'il vous pousse toujours devant. Alors vous profitez de l'humilité de celui qui est tout proche de vous. Mais quelquefois, c'est pas bon pour vous. Hein. Alors, faut faire attention. Mais l'exemple d'humilité de quelqu'un vous pousse à être humble. Parce que c'est tellement agréable de vivre à côté de quelqu'un d'humble qui est tout le temps là pour vous présenter, pour vous faire passer devant. Vous voyez, sans critiquer trop ce que c'est que la vie commune, de temps en temps, puisque ça fait partie de la philosophie, ça, c'est un laboratoire merveilleux, la vie commune. Extraordinaire. Alors, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas devenir le juge qui critique tout, mais être conscient et de voir si, de fait, soi-même, on est attentif à cela. Point de vue-là, on comprend très bien comment l'humilité aide énormément. énormément.